Alors, on y va ?
Alors,
bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles.
À l'écoute. B.
Messieurs, bonsoir.
Jean. À l'écoute des gens doux.
On regarde un film autant par les oreilles que par les yeux.
À l'écoute des gens doux.
Aujourd'hui, enfin, on voit que l'autoroute du capitalisme s'effondre. Pour plus de raisons que je ne peux vous en dire dans le petit bout de boudin qu'est cette leçon inaugurale.
Allez, j'aime doux.
C'est assez exceptionnel, je trouve, d'arriver dans un...
Alain Tanner.
Milieu complètement perdu, comme ça, rural, d'arriver à faire ce genre de manifestation. Je trouve que c'est une idée formidable, d'abord. Et puis...
J'en doux.
Il y a des endroits qu'on appelle des mauvais lieux, et il y a des endroits qu'on appelle des bons lieux. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'être tombé dans un bon lieu.
Oui, je comprends Tanner hier qui était surpris et super agréablement surpris par le lieu parce qu'effectivement...
C'est vraiment une fenêtre sur un écrin de nature unique et imprenable.
À l'écoute des gens doux.
Situé gens doux sur une carte.
Latitude, longitude, je sais pas trop.
C'est l'amour du cinéma.
Écoutez, c'est un...
Alain Tanner, vu par quelques cinéphiles à Jindou.
Ce qu'il caractérise, à mon avis, c'est deux choses. D'une part, d'être un cinéaste d'après mai 68, dans ses sujets, dans sa façon d'aborder, d'aborder la société, quoi, de la montrer. Et d'autre part, et pour moi c'est beaucoup plus important, c'est un extraordinaire directeur d'acteurs. Ces films n'ont pas une ride à cause de ça. C'est vraiment... Il y a un travail sur les comédiens formidable.
À l'écoute des gens doux.
Et vous savez ce que les marins ont aperçu au large du Kamtchatka ? Des îles gris-roses. Inconnues, immenses, pas marquées sur les cartes. Et vous savez ce que c'était ?
Non.
Des immenses tas de crevettes. Des conglomérats de crevettes. Et vous savez pourquoi il y a des îles en crevettes ? Et pourquoi bientôt on bouffera des crevettes au petit déjeuner, dans la soupe, au dessert, avec le café?
Non, je vois pas.
Mais ben c'est parce qu'on a tué toutes les baleines pour faire du rouge à lèvres. Et que vu que les baleines bouffaient les crevettes et qu'elles peuvent plus puisqu'on les a assassinées, eh ben nous, on va crever d'indigestion de crevettes. Ce sera bien fait pour nos gueules.
Ça va ?
Exactement.
Ben des gens qui...
À l'écoute des gens doux.
Nous sommes nous. Les gens d'ici, les gens d'Alien, les gens douillous.
Notre prochaine émission aura lieu demain à 6h30.
Ailleurs, il y a du jindou. Ailleurs, il y a du ici, du doux et du...
Alain Tanner.
Alors voilà, tout commence cet été au festival de jindou, un sympathique, très sympa, festival de cinéma dont la plupart des séances se passent le soir en plein air. Et donc, étant sur la route du sud-ouest à la fin du mois d'août, je vais rejoindre le camarade Fred, un habitué de cette antenne et même de cette émission qui était chaque mercredi à nos côtés avant de partir vivre loin là-bas, tout au loin dans le sud-ouest. Et lui, pendant ce festival de jindou, il fait une petite production radio quotidienne, l'une de celles que l'on vient d'entendre cette année. L'invité du festival, vous en doutez, était Alain Tanner, un cinéaste suisse, gauchiste, qui a commencé à faire du cinéma à la fin des années 70. Un cinéma passionnant. Je ne dirais pas que ça n'a pas vieilli, moi, par rapport à l'autre qu'on entendait dans le reportage. Alors, on est à jindou, on voit plein de films, on voit des films lettons, des films bulgares, des films espagnols, etc. On voit des films plutôt exigeant, du cinéma un peu pointu. On voit des films parfois carrément chiants, parce que pointu à l'extrême mais sans intérêt. Et puis d'autres fois, c'est vraiment des découvertes, des vraies émotions. On reste un petit peu scotché au fauteuil en béton lorsque le film se termine. Parmi les films qui nous ont scotché cette année, il y avait le film de Rabah Haberzaimesh, Dernier Maquis. Rabah Haberzaimesh est l'auteur de deux films très, très marquants qui avaient été faits il y a quelques années, Wesh Wesh et Blood Number One, qui tous les deux racontaient l'histoire d'un migrant venu d'Algérie qui se retrouvait victime de la double peine dans Wesh Wesh, quelqu'un qui après avoir été condamné par la justice pour quelques larcins, se retrouvait expulsable en plus, donc cette double peine. Et puis Blood Number One, c'était est-ce que c'est ce qui se passe avant ou est-ce que c'est ce qui se passe après. C'était le même héros qui revenait en Algérie après avoir vécu quelque temps en France et qui découvrait toute la violence et qui redécouvrait toute la violence et la complexité de la société qu'il avait quittée. Alors, on voit donc Dernier Maquis, un film politique et pas chiant, et on se dit qu'il faut en causer, que c'est assez rare de voir ce genre de film qui prenne à bras-le-corps les questions sociales. Et vu qu'on fait une émission d'actualité politique et sociale le mercredi sur FPP depuis des années, on se dit qu'on va y consacrer une émission. Alors, on téléphone à la société de production qui nous renvoie sur un attaché de presse. Ça se passe entre professionnels. L'attaché de presse organise un rendez-vous avec le réalisateur. Le rendez-vous est pris. Et donc, hier, j'arrive à Montreuil, dans les locaux de la société de production de Rabah Haberzaimesh. Et avec à peine une heure et quart de retard sur l'horaire prévu, on fait notre interview. Alors, moi, je ne suis pas habitué à discuter avec des artistes. C'est un peu compliqué. On rame un peu. Moi, je trouve ça plus simple d'interviewer des militants, des chercheurs de gauche, tout ça, plutôt que de parler de l'esthétique et du jeu d'acteur. Je ne sais même pas comment ça s'écrit, tous ces mots-là. Alors, je fais ce que je peux. Rabah n'a pas l'air spécialement motivé. Ça semble être sa 123e interview de la semaine pour faire le lancement du film. Bah, le résultat, c'est ce que vous allez entendre. À mon avis, un truc relativement moyen, mais enfin bon, voilà. Le truc qui s'est passé, c'est qu'une fois le micro posé, ça devient passionnant. On discute enfin de tous les sujets dont on voulait parler, on attaque les questions de fond, de la position des immigrés dans la société et à quoi ils servent, etc. D'autres questions, on a parlé de la plus-value, la place des migrants dans le système productif en France, on a débattu de qu'est-ce que c'était qu'un cinéma engagé, qu'est-ce que c'était qu'un cinéma politique, et lui qui refuse de qualifier son cinéma de cinéma politique et en même temps prenant à bras-le-corps des vraies questions politiques. Alors on cherchait des mots pour dire tout ça. Et puis, voilà, je me dis que c'était le meilleur moment, mais le problème, c'est que j'étais tout seul et que mon enregistreur était éteint. Alors, je vous rapporte ce reportage un peu mou, mais moi, je suis de très bonne humeur après mon rendez-vous d'hier.
Donc, on est avec Rabah Haberzaimesh le 22 octobre, aujourd'hui même, parce qu'on diffuse demain soir. Sort le film Dernier Maquis, c'est votre troisième film. Les deux premiers avaient un petit peu comme support la question de la double peine en France. Peut-être on en parlera tout à l'heure, mais cette fois-ci vous plongez dans le monde du travail, le monde des immigrés au travail. Et c'est un film un peu sans concession parce que il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de blancs, et on se retrouve réellement dans un espèce d'espace du monde du travail assez particulier.
On se retrouve dans une zone industrielle pas très loin d'Orly, juste en dessous d'un couloir aérien omniprésent. Dans cette zone, il y a des cuves de carburant, il y a un canal qui, au fur et à mesure, permet à la nature de reprendre ses droits. Et il y a des palettes. Il y a 1000 milliards de palettes. Les palettes, c'est un élément basique, pratiquement primaire. Faites que quelques morceaux de bois, absolument nécessaires pour le transport des marchandises de notre société consumériste. Et puis, Et puis nous, on en fait plein de choses. On en fait une œuvre d'art mouvante qui n'arrête pas de se déplacer. Une espèce d'installation d'art plastique qui, dans une zone industrielle, pourrait être comme, je sais pas, une FIAC, une foire internationale dans une zone industrielle. C'est assez marrant, d'art contemporain. Et on en fait des murs, on en fait des couloirs, on en fait des impasses, on en fait des minarets, puis des lieux de prière à ciel ouvert.
D'habitude, dans le cinéma, moi, quand je vais au cinéma, les ouvriers, ils font un peu, il y en a un ou deux dans un coin qui sont réduits à leur propre caricature. Et là, d'un seul coup, on est presque plongé sans concession, quoi, dans ce monde des ouvriers. Et enfin, il y a un regard très très précis aussi, parce qu'on se rend compte que c'est pas un continent uniforme que le monde ouvrier, et qu'il y a dedans, il y a ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, ceux qui viennent du Maghreb. Et que c'est pas la même histoire de l'immigration, ils n'occupent pas les mêmes places d'ailleurs comme ouvriers.
Oui, tout à fait. On y découvre donc un peuple français, un peuple français prolétaire. Depuis le début de la révolution industrielle, les forces patronales ont toujours tenté d'importer leur main-d'œuvre. Au départ, c'était d'abord à partir des régions de France, c'est-à-dire la Bretagne, les Cévennes, l'Alsace et la Lorraine. Et ensuite, ils ont importé cette main-d'œuvre d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, elle vient d'Afrique subsaharienne. Et cette main-d'œuvre a pour caractéristique ou bien point commun, que ce soit les Bretons d'il y a 100 ans ou les Renois d'aujourd'hui, d'être d'origine rurale et analphabète. C'est beaucoup plus facile pour les patrons ensuite de les essorer, de les épuiser à la tâche et au travail.
Enfin, peut-être toujours pour revenir sur ces ouvriers, c'est assez rare, on les voit travailler. C'est des scènes qui sont quasiment absentes du cinéma que des ouvriers au travail. On voit plus souvent des bourgeois faire leur activité professionnelle de bourgeois quand ils sont avocats, médecins, tout ça. Mais là, de voir des ouvriers, c'est des scènes assez longues d'ailleurs où on les voit transporter, travailler, peindre.
Peindre, réparer, trier ces fameuses palettes qui pour eux sont aussi en même temps ces palettes une certaine manière de trouver un refuge, de s'isoler, de se constituer une utopie. Ils arrivent même à réorganiser leurs pratiques culturelles de leur pays d'origine. Il reste plus que le baobab, et on aurait pu avoir des conversations, des palabres. Là, c'est pas sous un baobab, justement, c'est plutôt sous des palettes. Que le cinéma, c'est pas attaché à essayer de percevoir les différentes strates, les différents univers, les différents mondes populaires. Pour moi, c'est pas une surprise, parce que souvent, aussi bien en Amérique qu'en France, on a tenté d'utiliser le cinéma uniquement que comme moyen de divertissement, et plutôt comme un outil de propagande, un outil pour nous faire... Pour essayer d'atténuer les neurones que nous avons dans le cerveau, pour vaincre l'amaigrissement neuronal. Tu vois, c'est davantage de l'intoxication, de la désinformation et de la propagande, plus que de l'art majeur. Le cinéma, ça a une force et une beauté plus éblouissante, où on peut s'amuser en combinant les autres arts, que ce soit la peinture, l'architecture ou la musique. Ça nous permet de créer des espaces dans lesquels surgissent des moments de vérité ultime.
Si on en vient à l'histoire du film lui-même, on a planté le décor, cette usine, les ouvriers immigrés. Et alors, il y a un patron que vous jouez d'ailleurs. Vous jouez aussi dans vos deux précédents films où vous étiez plutôt un héros souffrant, mais un héros positif. Là, d'un seul coup, vous prenez le rôle du patron qui paye mal ses ouvriers et qui, pour tenter un peu de les amadouer, leur fait construire une mosquée et leur propose un imam.
Arbitrairement. Il désigne son imam arbitrairement, sans aucune concertation. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres. Ouvrir un lieu de culte dans une zone industrielle, dans une entreprise, ça va pas de soi, c'est pas évident. Peut-être que c'était pour acheter la paix sociale, mais ouvrir un lieu de fraternité, ça crée au fur et à mesure et ça forme des émancipations qui vont progressivement arriver à la contestation du pouvoir patronal. Vas-y, enchaîne. Vas-y,
moi. Moi, je fais des questions plus longues que tes réponses.
Non, mais juste sur cette question-là, le film est tendu autour de ça. Quoi. Ça commence par une...
C'est vachement simple, en réalité. C'est une histoire basique. C'est celle depuis le début de l'histoire. C'est la lutte des classes qu'on a oubliée, dont on refuse de parler, qu'on refuse de nommer. Alors qu'elle est là, qu'elle persiste et qu'au contraire, elle va prendre de plus en plus d'ampleur et qu'elle va certainement arriver à la création d'un immense mouvement populaire.
Alors, dans ceux qui vont se révolter et ceux qui ne vont pas se révolter, il y a aussi un truc qui est très visible, c'est qu'en gros, les immigrés les plus récents, ceux d'Afrique subsaharienne, les Blacks, eux, vont reculer devant le patron. Et par contre, les Maghrébins, eux, vont aller plus vers la confrontation de classe.
Ouais, c'est pas aussi évident que ça, à vrai dire. C'est peut-être parce que les liens religieux, les pratiques culturelles dans lesquelles ils se sentent protégés, c'est quand même leur patron qui leur a proposé. Donc ils ont une forme de loyauté qui leur permet de croire peut-être en des lendemains radieux, mais c'est que de l'illusion. Et en plus, ils viennent juste d'arriver, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la dernière vague migratoire qui constitue ce loupé de prolétariat. Ils ont des accents qui sont encore imbibés d'Afrique, de ses odeurs et de ses parfums. Comme les Bretons d'il y a 100 ans, ils sont ruraux, analphabètes. Et pour réussir à plonger pleinement dans la citoyenneté en France, il faut du temps, il faut y aller au fur et à mesure. La vague migratoire des Nord-Africains est bien plus ancienne et la présence de l'islam est tout aussi vieille que les cheminées d'usine. Donc ils ont réussi à s'adapter, à posséder certainement un certain nombre d'éléments qui leur constituent un discours politique, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui ont plongé dans l'open prolétariat comme nos frères africains.
Comment vous voyez-vous cette question de la religion ? Est-ce que vous l'abordez comme un facteur d'émancipation ou comme l'opium du peuple ?
Ça reste le même du peuple. Ça reste, les appareils religieux restent toujours des instruments extrêmement pertinents et percutants pour les pouvoirs dominants. Ceci étant dit, ouvrir une mosquée, ouvrir un espace de démocratie directe, ouvrir un espace où les débats, les controverses sont à l'ordre du jour, ça génère de l'émancipation, ça génère quand même de la contestation, et ça génère au fur et à mesure une force de politique nouvelle. Moi, je ne crois pas que la sphère politique et la sphère religieuse soient aussi étanches que cela. Au contraire, je crois qu'elles sont perméables et qu'un certain nombre d'idées, on l'a remarqué depuis la nuit des temps, un certain nombre d'idées, d'art, ont réussi à les lier. N'oublions pas que notre sentiment religieux, qui est quand même une de nos caractéristiques et qui nous distingue des autres espèces vivantes, n'oublions pas que ce sentiment religieux nous a permis de peindre les parois de nos grottes et ont permis aussi la constitution de la raison et jusqu'à des sommets. Donc oui, il suffit de dire un certain nombre de classiques pour s'en rendre compte. La raison, ce ne sont pas les déistes ou les athées qui l'ont mis en place dans le système philosophico-politique. C'était plutôt des gars qui étaient dans des monastères. Bon, ceci étant dit, l'opium du peuple, d'accord. Mais je ne crois pas que ça soit aussi tranché. Je crois que chacun de nous, il suffit qu'il fouille ses rêves le lendemain à l'aube pour qu'il se rende compte qu'au fond de son cœur, au fond de ses yeux, il y a une immensité qui est loin d'être uniquement que matérialiste. Voilà, c'est ce qu'on dit.
Sur, 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 ces, sur, Si on vient sur vos deux premiers films, plus celui-là, d'abord, est-ce que vous le pensez comme une trilogie ou une espèce une sorte de trilogie de les immigrés et la société française, un truc comme ça?
On peut considérer ça comme une trilogie à partir du moment où c'est toujours ce qui nous intéresse, c'est toujours les différentes formes de domination dans les processus. Et dans les processus démocratiques et dans les différentes vagues migratoires qu'a connues la France. Mais les deux premiers, c'était par rapport à la double peine. Kamel était ce personnage qui circulait entre les barreaux des prisons et puis entre les oliviers d'Amblède. Aujourd'hui, avec Dany Maki, on a pris quand même un virage, aussi bien d'un niveau formel que d'un niveau... en ce qui concerne les sujets politiques que nous avons voulu déployer.
Parce que là, on se retrouve quasiment, la plupart du film se passe en un même lieu. Il y a une espèce de tension aussi liée au lieu et à l'enfermement presque dans le lieu de travail.
Oui, mais je crois que finalement, il n'y a pas que dans le travail qu'on est enfermé. Hein. En y réfléchissant un peu, encore une fois, en se réveillant de nos rêves, on se rend compte facilement qu'on est prisonnier de nos contraintes, de nos déterminismes, de notre situation de classe, de nos structures qui étouffent la moindre volonté de liberté. La liberté, ça peut être un mot vain, absolument obsolète. Pour moi, c'est une conquête qui vient au fur et à mesure, quitte à mourir pour réussir à la toucher, l'observer et la caresser.
Peut-être qu'on peut dire deux mots aussi sur les conditions de production du film.
Écoute, nous, on a fait ça, on a produit ce film avec nos propres ressources, avec un peu de thunes qu'on a reçues donc des films précédents, et par un soutien inflexible tout de même, je leur suis vraiment gré, un soutien inflexible de la région Île-de-France. Qui sait lire les scénarios et qui nous a défendu, protégé et qui nous a en grande partie financé. C'est pas rien. Je suis vraiment fier d'être aujourd'hui de leur dire merci et d'être rempli de gratitude. On s'est fait jeter du CNC, c'est notre institution qui doit soutenir le cinéma indépendant. C'est des choses qui arrivent. Il y a des luttes dans ce genre d'institutions, des luttes politiques, des luttes idéologiques. Des commissions qui sont élues, on ne sait pas trop comment. Justement, on ne sait pas comment les commissions sont désignées, c'est comme pour l'imam. Donc merci l'Île-de-France, merci l'Accès, et puis merci à toute l'équipe de Sarazinc Productions qui autour de ce film a fait preuve d'une belle unité et surtout d'une belle intention de cinéma.
Parce que derrière ça, ce que je voulais évoquer, c'est le fait que quand on fait des films qui sont des films engagés, qui contestent un peu, il y a y compris, est-ce qu'on est définitivement contraint à le faire avec des moyens réduits?
Le principal, c'est d'y mettre toute sa patate. Je ne crois pas que je fais du cinéma engagé. Par contre, on s'engage totalement dans le cinéma que nous entreprenons. C'est-à-dire que tu vois, on y va à donf, on y met nos ressources, on met nos coups sur la table et on va à l'exploration, on va dans la recherche et on plonge dans une espèce de navire ou plutôt, comme dirait un grand poète, dans un bateau ivre où on découvre au fur et à mesure des lieux insoupçonnés, des horizons inconnus et des rivages merveilleux. Voilà, merci beaucoup de tout. Merci, merci, merci.
Non, sérieux, tu penses pas que tu fais. Vous pensez pas que vous faites du cinéma engagé?
Je peux pas me prétendre faire dire ça. Ce serait étiqueter le cinéma qu'on fait. Ce serait lui désigner, tu vois, une catégorie. Le cinéma que nous entreprenons est beaucoup plus ouvert sur plein d'autres axes. Nous, notre idée, c'est de permettre au cinéma d'être pas seulement que donc du divertissement, mais de devenir un véritable outil de connaissance, un outil politique, dans le sens où il permet de faire surgir une pensée de soi-même et une pensée collective, absolument indispensable dans les temps qui courent.
Non, c'est la manière dont nous nous engageons. On s'y engage totalement et c'est comme ça qu'à chaque fois on devrait concevoir la vie. C'est en y allant pleinement à donf qu'ensuite on est porté par un certain nombre de choses qui sont invisibles peut-être à l'œil nu, mais qui nous permettent de continuer à croire au lendemain qui chante.
Alors, je ne sais pas, moi, j'étais persuadé que vous étiez du cinéma engagé, moi, je tombe là. Enfin,
non, mais
c'est tellement rare de voir un vrai propos politique, une vraie hypothèse politique
Mais le fait de dire qu'on fait du cinéma engagé, ça va nous enfermer dedans, tu vois. Nous, on fait tout simplement notre cinéma, dans lequel nous nous engageons intégralement. Il y a une nuance. Le fait de regarder combien de mecs, putain, se prétendent faire du cinéma engagé et finalement, ils font que de proférer des discours à deux balles sur des images creuses et insipides. C'est pas ça, nous, notre cinéma. Notre cinéma, on va aller chercher sa force et sa puissance d'évocation dans la multitude des combinaisons qu'il nous propose. Tu vois, on va s'amuser à faire de la peinture pendant l'écriture jusqu'à la fin. On s'amuse à faire de la peinture et de l'architecture. On va et on pousse les intervalles. Et là, on laisse les sujets politiques nous envahir.
Allez, voilà, c'était donc l'interview de Rabah Aberzaïmesh à propos du film Dernier Maquis. Dernier Maquis, un film qui sort aujourd'hui même, 22 octobre 2008, à Paris, dans une dizaine de salles. Voilà, un film, j'ai trouvé ça vraiment époustouflant et politique, quoi qu'en dise son auteur, mais maintenant ça lui appartient plus. Maintenant que c'est au spectateur d'en juger. Voilà, on ne saurait trop vous inviter à aller voir ce film. Voilà, tu y vas ce soir, Raphaël, si j'ai bien compris.
Exactement. Voilà, j'y vais dès ce soir puisque ce petit reportage m'a convaincu. Merci.
Allez, plus un.
T'as pas l'air content là. T'as pas l'air content. T'as pas l'air content.
T'as quoi?
T'as pas l'air content.
Non, je suis content.
T'es content?
Ouais.
Merci.
Oh, t'as moins de temps.
C'est bien.
Ah ouais, moi je suis très content.
T'as intérêt.
Encore quelques années en arrière, le sexe masculin dirigeait la terre. Les hommes gagnaient tout le temps au bras de fer et partaient chaque week-end faire la guerre. Ils s'amusaient à tuer l'atmosphère tout en donnant même des ordres à leur mère. Mais depuis peu, ils sont déboussolés, car les vents se sont enfin retournés, leur montrant une chose jusque-là ignorée. Une femme savait écrire et même penser. Elle était dotée d'un charme meurtrier, mais leur demandait à haute voix
l'égalité.
Il y a la femme enfant, ça ne dure jamais longtemps. Il y a aussi la femme mère, la vaut mieux être célibataire. Il y a celles qui utilisent leur cerveau, ça vous fait froid dans le dos. Et pour les femmes qui sont sans clitoris, elles ne connaîtront pas le fils. Puis ils lui donnèrent presque tous ses droits et se les tapaient comme collègues parfois. Les regardant gravir à petits pas les marches de votre société ici-bas, criant que les belles valeurs d'autrefois se sont perdues et qu'ils ne s'y retrouvent pas. Oh non, c'est vrai. Il y a la femme qui a trop de pouvoir, elle ne se touche que pour un soir. Ou bien la femme exotique, ce n'est qu'un pur objet lubrique. Il y a celles qui se prennent des coups et qui restent quand même avec vous. Puis il y a la femme que vous lapidez, mais bon, normal, elle a dû le chercher. Hein, tu l'as cherché? Hein, tu l'as cherché? Can you fight with me?
des hommes ne fait qu'augmenter car ils ne savent plus du tout comment aimer ces choses qui n'arrêtent pas d'évoluer et qui tentent de leur mieux de s'assumer, disons. Qu'à elles seules, elles peuvent exister. Celles que vous ne savez pas aimer et vous trompez sans y penser. Puis il y a la femme sous son voilage que vous gardez au Moyen-Âge. Il y a les femmes qui s'aiment entre elles, tellement absurde, il n'y a rien de tel. Quant à la femme entre vos bras, demain sera-t-elle encore là? Quant à la femme entre vos bras, demain sera-t-elle toujours là?
Les oreilles loin du front, pardon, et du coq à l'âne, puisqu'on passe de l'univers de l'entreprise masculin de Rabat à Merzaïmèche à une petite chanson légère et pas sur les filles. Et on continue avec une expérience. Là, je crois que Pierre nous propose un petit laboratoire de création radiophonique.
Tout à fait. Alors, on va à nouveau changer d'ambiance. On va retourner vers un truc un petit peu plus plombé, un truc un peu plus lourd, mais toujours culturel, puisque en 2003, l'auteur Colombe McCann publiait Danseur, un livre qui racontait la vie de Noureyev. Mais avant d'entamer le récit de la vie de Noureyev, il y a quelques pages qui ouvrent ce roman, qui parle de ce qui se passe en Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, quelques pages assez stupéfiantes. Alors voilà, on l'a enregistré avec Marion il y a quelques mois de ça. On avait gardé ça dans les tiroirs, donc on va écouter cet extrait du livre de Colombe McCann, Danseur.
Union soviétique, 1941-1944. Quatre hivers. Ils construisaient des routes en brisant les congères armées de leurs chevaux. Ils labouraient la neige jusqu'à ce que les bêtes meurent, puis ils mangeaient leur chair avec une grande tristesse. Les médecins traversaient les champs givrés avec des ampoules de morphine collées sous leurs aisselles, afin qu'elles ne gèlent pas. Et, la guerre continuant, il fut sans cesse plus dur de découvrir une veine sur les bras des soldats, moribonds bien longtemps avant que d'être morts. Dans les tranchées, ils nouaient serrés les oreillettes de leur chapka, volaient les manteaux de réserve, dormaient les uns contre les autres et plaçaient les blessés entre eux où il faisait plus chaud. Ils portaient des pantalons matelassés, des couches de sous-vêtements, et pour rire, ils parlaient parfois des jambes des putains, ils en faisaient des écharpes de rêve. Le moment vint où ils ne retirèrent plus souvent leurs bottes. Ils avaient vu d'autres soldats, aux orteils, bleus, tomber soudain de leurs pieds. Et il croyait maintenant que l'avenir d'un homme pouvait être prédit à sa façon de marcher. Il fabriquait des cordons solides avec plusieurs lacets, puis en guise de camouflage, ils attachaient l'une à l'autre par-dessus leur capote, leur chemise blanche de paysan, tiraient bien leur cagoule, et ils pouvaient alors s'allonger dans la neige, y rester invisibles pendant des heures. L'huile gelait dans les carters des pièces d'artillerie. Les ressorts des mitrailleuses se brisaient comme du verre. En l'absence de gants, la chair adhérait au métal qui la leur arrachait. Ils allumaient des feux avec du charbon de bois, jetaient des pierres dans les braises qu'ils retiraient brisées pour réchauffer leurs mains. Ils comprirent que si l'on avait besoin de chier, ce qui n'arrivait guère, on faisait dans son froc. Ça y restait, glacé, et on n'enlevait ça que sous abri. D'ailleurs, ça ne sentait rien, les gants non plus, sauf en cas de dégel. Pour pisser sans s'exposer au froid, ils plaçaient des sacs de toile cirés sous leurs pantalons et ils apprirent à réchauffer leurs jambes là-dessus. Cette chaleur-là leur rappelait celle des femmes, mais le sac gelait de toute façon et ils se retrouvaient à nouveau nulle part, dans un champ de neige rougi par les flammes d'une raffinerie. En repérage dans la steppe, ils trouvaient les corps de compagnons d'armes, morts transis, la main levée, le genou déformé, la barbe couverte de givre, et ils savaient qu'il fallait se dépêcher de leur piquer leurs fringues avant qu'elles se fichent pour toujours avec eux. Et alors ils se penchaient, murmuraient « Désolé, camarade, merci pour le tabac ». On leur dit que l'ennemi se servait des cadavres pour construire ses routes puisqu'il ne restait plus d'arbres. Alors ils s'efforcèrent de ne pas entendre de bruit se répandre sur la glace, d'os brisés sous les pneus. Le silence avait disparu, l'air portait tous les sons. Les équipes de reconnaissance à ski, le chuintement des pylônes électriques, le sifflement des mortiers, un camarade hurlant après ses jambes, ses doigts, son fusil, sa mère. Le matin, ils réchauffaient leurs armes avec une charge légère, pour que le canon ne leur explose pas à la gueule dès la première salve. Ils enveloppaient de peaux de vache les poignées des batteries anti-aériennes, bouchaient les meurtrières des parapets avec de vieilles chemises afin de repousser la neige. Les soldats skis apprirent à lancer leurs grenades en biais, sans s'arrêter, sans un regard pour ceux qu'ils estropiaient. Lorsqu'ils tombaient sur la carcasse d'un T-34, d'une ambulance ou d'un panzer ennemi, ils passaient l'antigel dans les filtres à carbone de leur masque à gaz, et ils se saoulaient avec ça. Ils en buvaient parfois tellement qu'ils devenaient aveugles quelques jours plus tard. Ils lubrifiaient l'artillerie avec de l'huile de tournesol, jamais trop sur les percuteurs, juste une goutte sur les ressorts, et ils gardaient l'excès pour leurs bottes, que le cuir résiste un peu plus longtemps. Ils scrutaient l'intérieur des caisses à munitions pour voir si une ouvrière de Kiev, d'Oufa ou de Vladivostok avait dessiné un cœur à leur intention. Et s'il n'y en avait pas, il était là quand même. Puis ils chargeaient leur Katyusha, leur Maxime, leur Dektiarev. Lorsqu'ils avançaient et lorsqu'ils se repliaient, ils creusaient un fossé avec une cartouche de 100 grammes pour y sauver leur vie si elles en valaient la peine. Ils partageaient leurs cigarettes et quand ils n'avaient plus de tabac, ils fumaient de la sûre, du thé, de la salade et ne restait-il que ça, du crottin. Mais le chevau était tellement affamé qu'il ne chiait plus non plus. Dans les casemates, ils écoutaient Joukov à la TSF, Yeremenko, Vassilevski, Khrouchtchev, Staline aussi, sa voix pleine de pain noir et de thé bien sucré. On installa des haut-parleurs dans les tranchées et des amplis sur les lignes de front vers l'ouest pour empêcher les Allemands de dormir avec tango, bobino, socialisme. On leur parla des traîtres, des déserteurs, des lâches. On leur ordonna de les tuer. Cela fait, ils arrachèrent les médailles rouges plantées sur les torses, puis ils les épinglèrent sous leur propre tunique. Pour se cacher la nuit, ils couvraient d'adhésifs les phares des voitures, des ambulances, des tanks. Ils volaient dans les réserves pour en couvrir aussi leurs mains, leurs pieds, leurs portianki, et quelques-uns s'en collaient même sur les oreilles. Mais le ruban déchirait la peau parce qu'il gelait, et ils hurlaient de plus belle contre la douleur. Alors certains braquaient tout simplement leur arme sur la tempe et ils disaient au revoir. Ils écrivaient chez eux à Galina, Yalena, Nadia, Vera, Tania, Natalia, Dasha, Pavlena, Olga, Sveta et à Valia aussi, des lettres prudentes, adroitement pliées en triangle. Ils n'attendaient pas grand-chose en retour, peut-être une page unique dont le parfum était resté sur les doigts des censeurs. Le courrier étant numéroté, s'il manquait plusieurs numéros à l'arrivée, il savait qu'un convoyeur avait volé en morceaux. Terrés dans les tranchées, regardant droit devant eux, les soldats se répondaient des lettres imaginaires, puis ils repartaient, une fois de plus, combattre. Les rafales de shrapnel se plantaient sous les yeux, les balles trouaient les muscles des mollets, les éclats d'obus se logeaient dans la nuque, les mortiers brisaient les colonnes vertébrales, ils brûlaient vifs sous les bombes au phosphore. On entassait les morts dans des charrettes à chevaux et on les déversait dans d'immenses charniers creusés à la dynamite. Des femmes en châle venaient au bord des fosses pleurer leur mélopée et prier en secret. Les fossoyeurs, dépêchés des goulags, se repliaient ailleurs, laissant ces dames à leur rituel. On empilait de nouveaux morts sur les précédents, on entendait craquer les os gelés et les cadavres reposaient dans d'odieuses contorsions. Les fossoyeurs déposaient une dernière pelletée, et parfois ils se jetaient eux-mêmes dans le trou, de désespoir, vivants. Il restait toujours un peu de terre pour les recouvrir, et on disait ensuite qu'elles remuaient. Souvent, le soir, les loups sortaient des bois, trottant, pattes hautes, dans la neige. On chargeait les blessés dans les voitures, sur les chevaux, sur les traîneaux. Une langue jusque-là inconnue apparut dans les antennes médicales. Dysenterie, typhus, gelure, pieds des tranchées, ischémie, pneumonie, cyanose, thrombose, cœur déchiré. Et si les soldats guérissaient de l'un ou de l'autre, on les renvoyait se battre, encore une fois. À la campagne, ils préféraient les villages récemment brûlés, car le sol ramolli était facile à creuser. La neige exhumait une histoire. Ici, une couche de sang, là, un os de cheval, la carcasse d'un bombardier PO2, la dépouille d'un sapeur de la rue Spasskaya, un gars qu'ils avaient bien connu. Ils se cachaient dans les ruines, dans les décombres de Kharkov, et à Smolensk, ils se déguisèrent en tas de briques. Voyant les glaces flotter sur la Volga, il les aspergeait de pétrole, y mettait le feu, et le fleuve lui-même semblait brûler. Dans les hameaux de pêcheurs de la mer d'Azov, c'est les pilotes qu'ils repêchèrent, ceux qui avaient piqué puis rebondi sur 300 mètres de glace. Dans les bâtiments éventrés à la périphérie des villes, ils trouvaient d'autres morts dans des ravages de sang. Ils voyaient leurs camarades pendus au réverbère, décoration grotesque, la langue noircie par le gel. Lorsqu'ils coupaient les cordes, les poteaux gémissaient, se courbaient, et la lumière changeait d'empreinte au sol. Ils tentaient de capturer un Fritz vivant pour l'envoyer au NKVD. On lui trouerait les dents à la chignole, on l'attacherait aux pieux dans les congères, ou on le laisserait simplement mourir de faim dans un camp, comme on faisait chez les Schleux. Parfois, ils gardaient un prisonnier, lui prêtaient une pelle ou autre chose, le regardaient essayer de creuser sa tombe dans la terre gelée, et s'il n'y arrivait pas, on lui tirait une balle dans la nuque et on le laissait comme ça. Il découvrait des soldats ennemis, blessés, couchés dans les bâtiments incendiés. Il les jetait par les fenêtres, il les enfonçait jusqu'au cou dans la neige, il leur disait « Auf Wiedersehen, Fritz !» Mais parfois aussi, il les prenait en pitié, celles que seuls les soldats connaissent, découvrait dans son portefeuille que le mort avait un père, une femme, une mère, des enfants peut-être. Il chantait des chansons pour les leurs, absents, mais un instant plus tard, ils plantaient leur canon dans la bouche d'un gamin, mais un de l'autre bord. Et plus tard, à nouveau, ils chantaient d'autres chants. « Corbeau, corbeau noir, qu'as-tu donc à tourner au-dessus de ma tête ?» Il reconnaissait les figures des avions, les demi-tonneaux, les chandelles, les vrilles, les atterrissages à plat, l'éclair d'une svastika, l'éclat d'une étoile rouge. Ils acclamaient leurs femmes pilotes qui se lançaient aux trousses de la Luftwaffe. Ils les regardaient s'élever puis redescendre en flammes. Ils dressaient les chiens à porter les mines, les guidaient avec leurs sifflets aigus sous les tanks ennemis. Les corneilles inspectaient les travaux finis, se repaissaient de charognes, puis c'est elles qu'on abattait pour manger. L'ordre était inversé, matin noirci par la poussière des bombes, nuit illuminée par des kilomètres d'incendie. Les jours n'avaient plus de nom, bien qu'on pût quelquefois entendre le dimanche, de l'autre côté de la glace, les frisés célébraient leur dieu. Pour la première fois depuis des années, on avait permis aux Russes de fêter les leurs. Ils avaient emporté crucifix, chapelet, vêtements rituels. Aucun symbole n'était trop fort de dieu Lénine Pavlik. Mais si les soldats s'étonnèrent de voir des prêtres orthodoxes, et même des rabbins, venir bénir les tanks, aucune de ces bénédictions ne les aida à tenir. En retraite, pour en priver l'ennemi, les soldats dynamitèrent les ponts que leurs frères avaient bâtis, détruisirent les tanneries de leurs pères, allumèrent des lampes à acétylène sous les pylônes, précipitèrent le bétail dans les ravins, rasèrent étables et laiteries, versèrent de l'essence dans les silos à bâtir les poteaux télégraphiques, empoisonnèrent les puits, firent voler en éclats les pieux et les clôtures, démontèrent leurs propres granges pour récupérer le bois. Et, leurs troupes avançant, retrouvant l'avantage le troisième hiver, ils reprirent du terrain, et ils se demandèrent comment on avait pu faire ça à leur pays. Entassés dans des wagons à bestiaux qui cheminaient lentement dans la steppe gelée, les vivants partaient à l'ouest et les blessés à l'est. Blottis les uns contre les autres, ils se dressaient dès qu'une lueur perçait entre les lattes. Au milieu de chaque wagon se trouvait un seau en fer avec un feu allumé. Fouillant leurs aisselles et leurs aines, les hommes en extirpaient des poignées de poux qu'ils jetaient dans le seau. Ils pressaient du pain sur leurs blessures pour contenir les hémorragies. Quelques rares soldats se virent sortis du lot, placés dans des charrettes, emmenés à l'hôpital, dans les cliniques, les écoles. Les villageois venaient les accueillir, leur portaient des cadeaux. Les autres, dans le train, entendaient leurs camarades s'éloigner, ivres de vodka et de victoire. Et pourtant, ces trajets n'avaient aucune logique. Parfois, le convoi traversait la ville natale de l'un ou de l'autre, sans s'arrêter, et ceux qui avaient des jambes essayaient de trouer les parois des wagons. Les gardes les fusillaient pour insubordination, et plus tard, dans la nuit, des parents s'enfonçaient dans la neige, des bougies à la main, car ils venaient d'apprendre que leur fils était mort à quelques kilomètres seulement de chez eux, déshonoré, abandonné, à geler sur les rails. Allongés s'endormir dans leurs manteaux empesés de sang, les hommes se laissaient balloter par le chemin de fer. Ils faisaient tourner leur dernière cigarette et attendaient qu'une femme ou un enfant fasse glisser un paquet entre les lattes. À défaut, qu'on leur murmure un mot doux. On leur donnait de l'eau et de la nourriture qui leur lacérait les entrailles, et leur état empirait. Selon la rumeur, On construisait de nouveaux goulags à l'ouest, au sud, et ils se dirent que si les dieux les avaient aimés jusque-là, cela ne durerait peut-être plus très longtemps. Alors ils glissaient furtivement leurs fétiches et leurs icônes entre les trous du plancher, pour que d'autres les ramassent plus tard sur les rails. Remontant leurs couvertures sur leurs barbes, ils jetaient une nouvelle poignée de poux au feu, et les trains continuaient de projeter leurs vapeurs, les emportant de forêt en pont au-delà des montagnes. Les hommes ignoraient totalement où ils allaient finir, et lorsque la loco tombait en panne, ils attendaient qu'une autre vienne poussée par derrière, les remettre en mouvement, vers Perm, Bulgakovo, Tcheliabinsk, où les chaînes de l'Oural leur faisaient signe de loin. Et donc, à la fin de l'hiver 1944, un convoi défilait chaque jour dans les paysages de Bachkirie, émergeant des forêts profondes bordant la Bielaïa, pour traverser une vaste bande de glace jusqu'à la ville d'Oufa. Les wagons franchissaient lentement le pont en treillis, long de 250 mètres. L'armature d'acier, comme déjà endeuillée, lâchait des cris perçants sous le poids des bogies. Ils gagnaient l'autre berge de la rivière gelée, longeaient les maisons de bois, les hauts immeubles de béton, les usines, les mosquées, les routes de terre, les entrepôts et les blockhaus, jusqu'à la gare, où le chef donnait un coup de sifflet et la fanfare municipale soufflait dans ses cuivres bosselés. Des photos dans les mains, des mères musulmanes attendaient sur le quai. De vieux tatars déambulaient sur la pointe des pieds à la recherche de leur fils. Des babouchkas se serraient devant leurs seaux pleins de graines de tournesol. Les marchands rangeaient solennellement le vide dans leurs boutiques. Des infirmières sévères en uniforme brun préparaient le transport des blessés. Les gardes locaux s'adossaient, las, contre les poteaux, sous les panneaux de métal rouge qui, oscillant sous la brise, proclamaient l'électrification des campagnes. « Notre grand commandeur vous apporte l'électricité !» L'air était pénétré d'une odeur qui annonçait les soldats, la sueur, la pourriture, et chaque après-midi d'hiver, un garçon de 6 ans, affamé, efflanqué, mais vif, s'asseyait sur la pique au-dessus de la rivière pour regarder les trains. Il se demandait quand son père allait rentrer, s'il reviendrait brisé comme cela, en bas, qu'on soulevait dans la vapeur et les coups de clairon. Extrait de « Danseur » de Colum McCann.
Voilà, c'est toujours les oreilles loin du front. On ne sait pas s'il reste encore des auditeurs à l'écoute. Néanmoins, ce qu'il en reste, bravo. Bravo d'avoir passé cette petite épreuve, ce petit temps avec nous. Et pour vous récompenser, comme chaque semaine, une petite pépite en forme de pomme d'amour, c'est le générique.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.